est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
James Bond, I never intended to be a hero.
Mon personnage principal, James Bond, je n'ai jamais voulu vraiment en faire un héros. Je voulais qu'il soit une sorte d'instrument discret manié par les services gouvernementaux qui se trouverait plongé dans des situations fantastiques et qui s'en sortirait plus ou moins bien à coup de revolver.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Bonjour. Le triomphe du Bureau des légendes, la série d'Éric Rochant produite par Canal+, à propos de la DGSE, et dont la nouvelle saison est actuellement diffusée en répondant à une impatience largement partagée, ce triomphe m'a donné le goût de revenir ici sur la figure de l'agent secret au cinéma. Elle y a prospéré de longue date et elle invite à s'interroger sur les racines de sa popularité. Nous allons donc le faire ce matin et ce sera en nous concentrant sur le cas de Bond, James Bond. Car il n'existe pas de héros qui ait connu sur les écrans une longévité aussi remarquable depuis son apparition dans les salles en 1962. 4 milliards d'humains, nous dit-on, ont vu au moins l'un des 24 films dont il s'agit, c'est-à-dire un habitant de la planète sur deux. La signification sociale, politique et culturelle d'un pareil phénomène mérite, vous en conviendrez facilement, d'être scrutée. C'est pourquoi je vais faire appel à la compétence de Fabien Bouly, qui est maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université de Paris-Nanterre, afin d'interpréter avec lui ce succès en vérité prodigieux. De comprendre en particulier comment ce héros britannique, né en littérature et au cinéma en plein cœur de la guerre froide, a pu survivre au formidable changement qu'a connu depuis lors la géopolitique de la planète. Mais aussi quel orgueil britannique qu'il a réussi à flatter tout en pouvant prétendre à l'universel. Quels mythes anciens il a perpétués, quels fantasmes collectifs il a rejoint et assouvi, entre flamboyance et noirceur, entre générosité et cruauté, entre virilité affichée et faiblesse secrète. Bien plus complexe, en fait, ce personnage qu'un regard superficiel ne le laisserait à croire. Et par conséquent, un excellent gibier pour notre curiosité.
Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Pour être un agent secret, il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Pour être un agent secret, les filles il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Le meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 3, 4, 5, 6, 7. Il est devenu vedette dans les films qui font recette. C'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort.
Fabien Bouly, bonjour.
Bonjour.
C'était Petula Clark qui chantait L'agent secret en 1988. C'est bien James Bond qui est là.
Le 007, oui, c'est bien James Bond. Et cette chanson a le mérite de rappeler que ce matricule renvoie d'abord à une section, la section 00, auquel appartient James Bond dans les services secrets britanniques.
On nous dit que cela signifie qu'il a déjà tué deux fois le premier zéro et que le second voudrait dire que... il est autorisé à tuer en mission. Mais quelle est l'origine de ce sigle? Il y a plusieurs hypothèses, si j'ai bien compris.
Ian Fleming, sans doute, qui a appartenu en partie au service secret, on y reviendra, s'est inspiré peut-être du sigle qui venait signer les documents secrets au sein des services secrets. Il est possible qu'un des agents de la reine Elisabeth aussi, pour montrer qu'il était les yeux de la reine, eh bien, signait les documents, les lettres qu'il lui adressait d'un double zéro.
Je vois que le... général John Churchill, le premier duc de Marlborough, que nous appelions Malbrook, avait coutume d'adopter le code 00 avec ses espions.
Aussi, voilà. Donc ça fait partie des différentes conjectures, des différentes possibilités qui expliquent le fait que Fleming ait pris ce sigle de 00 pour l'affubler à 007.
Et Churchill, qui descend de Malbrook, avait été un ami proche du père de Fleming sur cela aussi. On prétend aussi que le docteur John Dee, qui était astrologue et alchimiste, conseiller et confident de la reine Elisabeth Ier, signait 00 ses messages à la reine.
Exactement. Ce sont toute une série d'explications possibles sur le fait que Fleming ait utilisé ce sigle pour qualifier la section des agents secrets qui ont ce permis de tuer et de donner le sigle 007 à James Bond.
J'ajoute une dernière explication, si vous le voulez bien. C'est qu'il y a une nouvelle de Kipling qui s'appelle 007, l'histoire d'une locomotive américaine, 1897.
Et on suppose que Fleming a lu cette nouvelle et peut-être s'en est-il inspiré. Ça dit d'ailleurs la manière dont Fleming travaillait, c'est-à-dire qu'il prenait parfois des choses qui venaient d'un peu de droite à gauche et qu'il s'en servait pour ses romans et pour les histoires qu'il racontait. C'est l'origine du nom James Bond d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il était en train d'écrire son premier roman, Casino Royale, à la Jamaïque, et puis il avait dans sa bibliothèque un livre, Birds of the West Indies, d'un ornithologue qui s'appelait James Bond.
Les oiseaux des Indes occidentales.
Et c'est la raison pour laquelle, en prenant le nom de cet auteur, qu'il trouvait finalement assez banal, assez commun, qu'il l'a donné à son héros qui est devenu James Bond 007.
Il y a presque depuis toujours une fascination du cinéma de fiction pour le personnage de l'espion, de l'agent secret.
Oui, ça remonte dès le cinéma muet, la question de l'agent secret et la figure de l'espion. Et puis, le cinéma s'en est finalement toujours emparé et accompagné les évolutions de cette figure avec ses moyens, ses apprentissages, ses modes opératoires. Et on le retrouve encore actuellement, précisément, par exemple, dans une série comme Le Bureau des Légendes.
Il y a les fantasmes. Il y a la description, le choc entre une certaine bureaucratie et les aventures échevelées des héros considérés.
Oui, parce que les espions et les agents secrets, comme leur nom l'indique, ils appartiennent à un monde qui finalement reste invisible pour le commun des mortels. C'est celui à la fois de l'espionnage, des guerres secrètes. Et donc le cinéma s'en empare pour à la fois donner une vision parfois réaliste de ce milieu, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans Le Bureau des Légendes, mais aussi pour fictionner justement cette invisibilité et faire en sorte qu'on ait une conception parfois un peu délirante, fantasmatique, auquel certains aspects des James Bond participent, en particulier par exemple avec des gadgets un peu échevelés parfois.
Peut-être faut-il préciser pour ceux de nos auditeurs et celles de nos auditrices qui n'auraient pas regardé Le Bureau des Légendes, que la légende a une signification particulière dans ce monde de l'espionnage.
Absolument. La légende consiste à faire en sorte qu'un agent secret en fait ait une identité de substitution pour s'infiltrer dans tel ou tel milieu, pour mener telle ou telle mission, et bien que cette légende en fait constitue pour lui un nouveau personnage, mais qu'il devienne véritablement ce personnage. On le voit dans Le Bureau des Légendes par exemple, avec Phénomène qui endosse l'identité d'une véritable sismologue. Elle apprend la sismologie, elle apprend le farsi pour aller en Iran et donc c'est un véritable apprentissage et une nouvelle identité que les agents travaillent à adopter et à adosser pour s'infiltrer finalement dans des milieux et mener des missions secrètes.
Vous parlez de Marina Loiseau.
Absolument.
Eh bien, revenons en arrière, si vous voulez bien. Avant le Bureau des légendes, on pourrait énumérer beaucoup de films. Je vais braquer l'attention sur deux d'entre eux. Les 39 marches d'Alfred Hitchcock et puis l'affaire Cicéron de Mankiewicz. Un extrait du film Les 39 marches qui est sorti en 1935 avec Robert Donat dans le rôle de Richard Hannay et Madeleine Carroll dans le rôle de Pamela. Comme souvent chez Hitchcock, la scène se passe dans une salle de théâtre.
Vous entendez, Sotère? C'est celui que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. C'est ici que je l'avais entendu auparavant, bien sûr, dans ce music-hall, Annabella Smith.
Mesdames et messieurs, avec votre aimable attention et votre permission, j'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'un des hommes les plus remarquables qui soit au monde.
C'est le même homme?
Cet homme mémorise 50 faits nouveaux et ne les oublie plus. Des milliers de faits et de découvertes dont il se souvient jusque dans leurs plus petits détails. Mettez-le à l'épreuve, mesdames et messieurs. Posez-lui n'importe quel...
J'ai compris, je sais pourquoi aucun document n'a disparu. Tous les renseignements sont dans la tête du bonhomme, c'est clair.
Voici Monsieur Mémoire.
Qu'est-ce que vous racontez?
Ce que je raconte, les secrets du ministère de l'air ont été empruntés et puis mémorisés par ce petit homme. Et puis replacés avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Et c'est pour ça que le professeur est ici. C'est pour l'emmener hors d'Angleterre après le spectacle.
Mais oui, c'est ça. Il y a des messieurs qui désirent vous parler, monsieur.
Une question, s'il vous plaît. Je vous en prie, une question.
Oxford a-t-il gagné la course?
En quelle année Lindbergh a-t-il traversé l'Atlantique?
Quelle hauteur d'empennage?
Vous êtes Richard Hannay. Il se passe des choses.
Je viens, mais cet homme sur scène,
il faut... raisonnable, vous ne voulez pas gâcher le plaisir du public qui n'y est pour rien.
Une question, s'il vous plaît. Quelle est la capitale de Wilhelmshaven?
Dites-nous ce que sont les 39 marches. Allons, répondez! C'est quoi les 39 marches?
Les 39 marches, c'est le nom d'une organisation d'espions qui collecte des informations pour le ministère des Affaires étrangères.
Ce film très fameux de Hitchcock est inspiré d'un roman de 1915 de John Buran.
Tout à fait.
Rappelez-nous l'intrigue.
Eh bien, en fait, on a un personnage dans le film qui est Richard Hannay, qui est un Canadien. Et Hitchcock a bien pris soin, d'ailleurs, de nous donner très peu d'informations sur son identité parce que, alors qu'il est à Londres, il participe à un moment de spectacle aussi de music hall au début du film. Et puis, on découvre à ce moment-là ce monsieur mémoire qui a une mémoire effectivement prodigieuse. Et puis, un coup de feu est tiré dans la salle, une panique prend les spectateurs, ils sortent de la salle et là, une femme lui dit « Est-ce que je peux me réfugier chez vous ?» sans autre explication que celle-ci. Il la fait venir chez lui, dans un appartement où il n'y a pas beaucoup de signes d'identité, et c'est un point important, puisque Hitchcock a fait en sorte que tous les meubles soient recouverts de drap blanc, puisque l'appartement est en travaux. Et là, elle lui explique qu'une organisation secrète menace le pays, et qu'il doit se méfier en particulier d'un personnage à qui il manque la dernière petite phalange du petit doigt, et elle se fait assassiner chez lui. Et donc, Richard Hannay, devient le héros d'une aventure pour laquelle il n'était sans doute pas fait, et il va arriver jusqu'à cette fin, où il va découvrir, en effet, que ce monsieur mémoire joue un rôle dans cette intrigue, puisqu'il a accumulé des renseignements sur cette organisation secrète que sont les 39 marches.
Donc déjà beaucoup des composantes des films concernant des agents secrets ultérieurement.
Absolument, c'est-à-dire cette capacité à se mêler à une intrigue et à s'adapter finalement aux situations, ça c'est un premier élément.
En ayant l'air normal en plus.
En ayant tout à fait l'air normal.
Et en l'étant parfois, mais en ayant l'air quand on l'est pas.
Absolument. Une autre des composantes que l'on voit, c'est que, et ça va être structurant pour le cinéma d'espionnage, c'est l'idée que derrière la réalité apparente, il y a une autre réalité secrète, menaçante parfois, qui est représentée ici par cette organisation d'espions secrètes que sont les 39 marches.
Il faut des complots.
Il faut des complots, c'est une des données de l'espionnage, c'est-à-dire en tout cas, c'est soupçonner qu'il y a des complots permanents et que peut-être ce qui menace l'État même en temps de paix, eh bien, c'est une guerre permanente avec d'autres États ou des organisations qui menacent l'intégrité de l'État. Il n'y a pas de paix réelle pour l'espionnage. L'espionnage anticipe toujours la possibilité qu'une guerre menace ou les intérêts de l'État, et c'est la raison pour laquelle il y a des renseignements et des services secrets.
Tout cela s'exaspère évidemment en temps de guerre chaude, de guerre réelle. Un mot d'un autre film qui a beaucoup marqué les sensibilités et qui continue de marquer les mémoires. Je veux dire l'affaire Cicéron de Mankiewicz.
Oui, alors c'est un très beau film qui est inspiré d'une histoire vraie. ou le majordome de l'ambassadeur d'Angleterre en Turquie, qui était un territoire neutre au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc il grouillait d'espions.
Absolument, mais qui grouillait aussi à la fois d'alliés et puis de nazis, et qui se rencontraient autour d'un certain nombre de soirées, encore une fois, donc qui était vraiment en relation. Mais le majordome, Diello, eh bien, a récupéré dans le coffre-fort de l'ambassadeur d'Angleterre un certain nombre de documents ultra-secrets, et il les a vendus aux nazis. Et toute la question, en fait, du film aurait été de savoir si finalement, eh bien, ces documents, les nazis auraient pu s'en servir pour peut-être mettre à mal les puissances alliées. Et en réalité, ils se sont toujours méfiés de Diello, qui pourtant leur apportait des informations ultra secrètes.
On est là en plein dans le jeu de miroir presque à l'infini. L'espion étant supposé être un agent double, et s'il est supposé être un agent double, on ne croit pas ce qu'il vous dit, et si on ne croit pas ce qu'il vous dit, ça ne sert à rien qu'il soit espion, etc.
Exactement, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire c'est assez vertigineux de savoir où se situe la vérité d'un espion, puisque précisément il peut toujours être un agent double, et on ne sait jamais si, enfin en tout cas le soupçon est constamment sur l'espion, puisque la question est de savoir s'il trahit vraiment son pays ou pas, s'il est au service de son pays ou pas, et c'est ce qui fait la complexité précisément de cette figure et sa richesse fictionnelle.
Dans le cas de James Bond, on n'a pas de doute, on ne pense pas, je crois, un seul instant, parfois tout de même, qu'il peut trahir sa majesté britannique.
On a peu de doutes sur l'intégrité de James Bond.
Alors venons à lui et venons à son auteur que vous avez déjà cité, Fabien Bouly, je veux dire Ian Fleming. Il est toujours intéressant de savoir comment dans l'existence d'un auteur, on peut déjà s'efforcer de débusquer tel ou tel des éléments qui vont ensuite marquer le héros devenu mythique.
Alors, il y a des points communs d'ailleurs entre Fleming et les traits qu'il a prêtés à son personnage et à son héros. Fleming, d'abord, est orphelin de père assez tôt. Son père meurt en 1917 pendant la Première Guerre mondiale.
Vous allez nous conduire vers toute une réflexion sur le père absent ?
On peut conduire sur Bond une réflexion sur le père absent. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il se soumet à l'autorité de M, qui est le chef des services secrets. Un monsieur puis une dame, en effet, à partir de 1995. Mais dans les romans, ça reste uniquement un monsieur. Et il y a un rapport de père à fils, un peu, qui s'instaure entre ces deux figures. En tout cas, James Bond lui-même est orphelin. Voilà, il perd ses deux parents. Ses parents meurent dans un accident d'escalade. Et Fleming, donc, va passer aussi par Eton, qui est un des grands collèges britanniques. Et James Bond lui-même passera par ce collège. Et puis ensuite, pour nourrir la figure de l'espion, Fleming va être journaliste pour Reuters. Et il couvrira en particulier un grand procès à Moscou.
Agent de change aussi, à un moment donné, l'argent compte dans toutes ces histoires.
Absolument. Après avoir été journaliste, il devient agent de change. Alors, la légende dit qu'il a été le plus mauvais agent de change du monde, mais qu'en tout cas, la question de l'argent était une question importante pour lui. Et puis, finalement, eh bien, il va se faire écrivain relativement tardivement, puisque c'est en 1952, très exactement le 17 février 1952, qu'il se met devant sa machine à écrire et qu'il écrit la première aventure de James Bond, Casino Royale.
Mais en nourrissant ce propos, évidemment, de son expérience dans les services secrets.
Après avoir été journaliste et avoir été agent de change, Ian Fleming a été le directeur de cabinet du chef des services secrets de l'amirauté en Angleterre. Et c'est là qu'il a connu de l'intérieur véritablement le fonctionnement des services secrets. Au point que, pendant même qu'il y était, il a mené à la fois un certain nombre de petites missions. Alors, la légende dit qu'il aurait été un grade de papier, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, il a mis sur pied une unité d'assaut 30 qui avait pour mission, sur le théâtre des opérations pendant la Deuxième Guerre mondiale, de récupérer les documents qui étaient abandonnés par l'ennemi. Et Fleming les appelait ses peaux rouges. Et cette unité d'assaut a mené un certain nombre d'actions qui ont été tout à fait opérantes. Et puis, donc, c'est dans le temps même où il fait partie des services secrets que Fleming se dit qu'il écrira un jour l'histoire d'espionnage qui mettra fin à toutes les histoires d'espionnage parce qu'il connaît de l'intérieur précisément le fonctionnement et le monde des services secrets.
Voilà un extrait d'un de ses romans, Moonraker, un de ceux qui sera d'ailleurs ensuite transposé au cinéma. C'est un roman de 1955. Cet extrait est diffusé dans Une vie, une œuvre de Martin Kénéen sur France Culture le 5 septembre 2015.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
À peine deux ou trois fois par an se présentait-il une mission exigeant les aptitudes spéciales de Bond. Le reste de l'année, il se la coulait douce, en brave chef de bureau d'une quelconque administration. Heure de bureau très souple, entre 10h et 6h. Déjeuner, la plupart du temps à la cantine. Dans la soirée, partie de cartes avec quelques bons amis, ou réunion chez Crockford. Ou encore, séance de jambes en l'air, pas très passionnée, en compagnie de l'une des trois femmes mariées de sa connaissance. Le week-end, il jouait au golf, pour de gros enjeux, dans l'un des clubs des environs de Londres. Moonraker.
Quelques traits déjà, Fabien Bouly, de James Bond quand il apparaît au cinéma en 1962.
Alors là, on est en littérature et Fleming a pris soin de montrer que si son personnage, il va lui faire vivre des aventures évidemment un peu exceptionnelles et même fantastiques, en particulier dans Moonraker, puisque Hugo Drax menace d'envoyer des ogives nucléaires sur Londres. Donc on voit le caractère très fantastique de cette affaire. Et d'ailleurs, Fleming disait que ces histoires, si elles étaient impossibles, se situaient tout de même dans le champ du probable, ça il y tenait absolument. Mais pour bien marquer aussi finalement le caractère un peu vériste de l'univers qu'il souhaite développer, il montre aussi que James Bond a un côté un peu agent fonctionnaire un peu gris parfois, et que les missions qu'il mène dans le cadre des services secrets ne sont que l'exception de l'ordinaire de sa vie. L'ordinaire de sa vie, c'est d'être un agent fonctionnaire qui fait beaucoup de paperasse, ce qui ennuie profondément d'ailleurs James Bond, mais c'est aussi une identité profonde du personnage. C'est un aspect du personnage que le cinéma aura plutôt gommé, et on mettra beaucoup plus en évidence le caractère un peu fabuleux de la figure, ou le fait qu'on insiste sur les missions exceptionnelles qu'il mène.
Cela rappelle un peu, en fait, les moments d'ennui extrême de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Nous l'avions consacré une émission récemment à ce personnage également éminent, qui attend toujours, dans une sorte d'ennui désabusé, les instants tout à coup, la vie redeviendra intéressante.
Eh bien, c'est exactement la même chose pour Bond, puisque pour Fleming, comme pour son personnage, le pire, finalement, péché, c'est l'acédia, c'est-à-dire l'ennui, c'est-à-dire le fait de se laisser aller à une mélancolie profonde que le personnage de James Bond peut porter et que Fleming, sans doute, lui-même portait en lui. Et donc, c'est précisément à cela que répond le besoin d'aventure et de mission, c'est pour, justement, aussi combattre cet ennui qui menace de ronger le tempérament du personnage.
Un personnage qui est plus complexe que parfois on ne peut le penser lorsque on caricature ses films. Je vois que vous écrivez que c'est une sorte de personnage kaléidoscopique qui serait à la fois varié et unique, un tueur ambigu et cruel dans Casino Royale, un dandy patriote, également un homme dont la virilité s'assagit et devient rassurante à mesure que le temps passe. Il faut rappeler qu'il a été interprété par toute une série d'acteurs.
Alors, dans la série officielle des films qui sont produits par Aeon Productions, il y a effectivement 6 interprètes. Le premier est bien connu, c'est Sean Connery, qui a interprété le personnage dans 7 films.
Jusqu'à 53 ans, après on lui a dit que c'était peut-être un peu tard.
Je crois qu'aussi il en avait un petit peu assez, enfin les deux sans doute ont dû compter. Et puis, entre l'avant-dernier film interprété par Sean Connery, le dernier qu'il interprétera, il y a un autre acteur qui a interprété dans un unique film au service secret de Sa Majesté James Bond, c'est George Lazenby.
Un peu oublié.
Un peu oublié parce qu'il n'a interprété le personnage qu'une seule fois et puis il venait après le grand Sean Connery qui a donné quand même les traits principaux de cette figure. Pour autant, c'était une interprétation intéressante et originale que celle de George Lazenby, puisque c'est le seul James Bond où James Bond se marie avec Teresa Di Vincenzo, et il est intéressant d'avoir un interprète qui était un côté un peu plus, je dirais, fleur bleue, en tout cas un peu vierge comme ça, et ça correspondait bien à un aspect du personnage qu'on n'imagine pas, mais c'est son côté un peu romantique. James Bond est aussi un personnage qui est à la recherche de la femme idéale, et c'est bien dans ce film qu'on le voit se manifester. Il y a aussi Roger Moore, ensuite, la période Roger Moore, qui a interprété le personnage cette fois.
Plus d'humour, peut-être, plus de détachement que Sean Connery.
Oui, on est dans une période où aussi les producteurs essayent de faire en sorte que les films deviennent peut-être plus grand public, s'adressent à un public plus large, donc il y a un côté un peu, effectivement, distancié, assez flegmatique, comme ça, du personnage. Et puis, on va revenir à quelque chose d'un peu plus noir avec l'interprétation de Timothy Dalton dans deux films, Permis de tuer, Tuer n'est pas joué et Permis de tuer. Et puis ensuite, on aura la période Pierce Brosnan avant d'arriver à la période encore actuelle avec Daniel Craig depuis Casino Royale en 2006.
Daniel Craig qui a marqué une certaine inflexion par rapport aux comédiens précédents et qui a d'ailleurs, dont la présence a été un peu mise en doute au début avant qu'il s'installe très efficacement.
Le choix d'un interprète de James Bond peut prendre finalement une tournure d'affaire d'État pour les fans, on pourrait dire. Et effectivement, l'arrivée de Daniel Craig pour l'interprétation de Bond au moment où ça a été annoncé par les producteurs a été assez mal perçue. Il y a eu même un site Daniel Craig is not Bond qui a été mis en place à ce moment-là. Mais dès la sortie du film, on peut considérer qu'il a plutôt convaincu parce que il a donné une interprétation un peu vivifiante au personnage, tout en muscles comme ça. Et puis, c'est Casino Royale est aussi le film qui reconstruit la figure de James Bond en adaptant tardivement dans la filmographie le premier roman Casino Royale. Et donc, on reconstruit à partir d'un nouveau personnage et d'un nouvel interprète, eh bien, une nouvelle figure de James Bond qui conserve évidemment de nombreux traits des interprétations précédentes, mais qui l'adapte finalement aussi au monde contemporain.
Alors c'est une sorte de polysémie qui frappe et que vous avez bien relevé dans vos travaux et qui conduit à une réflexion sur les mythes, la mythologie de James Bond, sans laquelle je crois qu'on ne comprendrait pas son succès universel. On ne peut pas réduire James Bond à la formule japonaise « kiss kiss bang bang ».
Pas tout à fait, non. Ce qui est intéressant avec cette figure, c'est qu'elle paraît à la fois extrêmement simpliste et en même temps, elle cache une complexité, et une complexité qu'on peut dire mythologique.
Il y a d'abord un bestiaire qui est très frappant.
Il y a tout à fait un bestiaire, c'est-à-dire que Fleming, sans doute, a été inspiré par la mythologie celte et ou d'autres mythologies, évidemment. Et par exemple, si on prend Casino Royale, le chiffre, qui est l'ennemi que combat James Bond dans le roman, eh bien, il est explicitement comparé au Minotaure, voilà, c'est une sorte de taureau finalement que le moderne Thésée que serait James Bond eh bien affronte. De la même manière, dans ce bestiaire et dans ce recyclage mythologique qu'opère Fleming à la fois en littérature et ensuite qui va se retrouver au cinéma, la grande figure qui est derrière James Bond, c'est la figure du chevalier Saint-Georges, celui qui terrasse le dragon, et on voit que eh bien précisément dans le combat que James Bond mène avec toute une figure de grands méchants qui ont des caractéristiques physiques particulières. Il suffit de penser par exemple à Blofeld dans On ne vit que deux fois qui a une grande cicatrice qui lui strie le visage.
Il y a Requin aussi, Requin.
Requin, alors lui c'est plutôt un second couteau, mais Requin effectivement a une particularité, c'est qu'il a des mâchoires d'acier, donc un trait assez stupéfiant qui le distingue et qui en montre l'aspect en tout cas au départ très menaçant.
Tout en étant amoureux d'une jeune fille aux tresses blondes.
Oui, c'est-à-dire que c'est le seul méchant qui revienne deux fois dans la filmographie et son trait va peu à peu s'adoucir et il va finalement lui aussi tomber amoureux d'une jeune fille blonde, en effet, dans Moonraker.
Le docteur No a des pinces d'acier à place des mains, son crâne est rasé presque poli, sa peau est translucide, il évoque une sorte de crabe gigantesque.
Dans les romans, en effet, et on retrouve cet aspect du personnage dans le film, puisque effectivement il a des mains d'acier et qu'ils le font ressembler dans le roman à un crabe, et ça dit l'appartenance à un bestiaire justement de tous ces personnages qui recyclent finalement chacun à la manière cette grande figure du dragon qu'il faut vaincre par ce nouveau chevalier qu'est James Bond.
Pour ne pas parler de Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie, qui est traité par Fleming de crapaud.
C'est-à-dire, il considère que c'est une femme absolument ignoble pour, dans sa représentation, et il insiste évidemment sur son caractère un peu adipeux, il la compare à un crapaud. Mais ce qui vaut pour cette femme vaut évidemment pour toute une série de personnages masculins qu'il qualifie de cette manière-là pour montrer évidemment leur caractère presque inhumain d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est vraiment un jeu entre humanité bondienne et inhumanité des méchants qu'il faut précisément vaincre.
Vous évoquiez Thésée et le Minotaure. Les analystes du succès de James Bond expliquent aussi que le personnage s'enracine dans la mythologie antique, effectivement, Héraclès, Dionysos.
On peut considérer, par exemple, que les missions que mène James Bond sont une manière pour Fleming eh bien, de reconduire un petit peu les 12 travaux d'Hercule. Et de la même manière, Dionysos, c'est le personnage qui développe une forme de mania, une forme de folie. Et il y a au moins un aspect du personnage de James Bond qui est caractéristique des romans et qu'on retrouve aussi un peu dans les films, c'est que il a cette mania virile, cette capacité finalement eh bien, de foudroyer par son charme un certain nombre de femmes. On le voit bien et c'est évidemment le caractère aussi très misogyne à la fois des romans et des films. Et c'est un aspect qu'on peut considérer venir du personnage de Dionysos, aussi bien que l'hédonisme de Bond, c'est-à-dire cette volonté eh bien, de soigner à la fois la manière dont il s'habille, les mets qu'il mange. Il y a une boisson qui est essentielle pour James Bond, c'est le vodka Martini shaken not stirred, c'est-à-dire au shaker, pas à la cuillère. Ça dit le raffinement précisément que met James Bond dans la confection de cette boisson. Dans Casino Royale, il invente un nouveau cocktail. Il invente un nouveau cocktail auquel il donne le nom d'une femme qu'il va beaucoup aimer, qui est Vesper Lind. Il appelle ce cocktail le Vesper.
Je ne sais pas si c'est pas un peu machiste, mais nous y reviendrons.
C'est sans doute tout à fait machiste, mais ça c'est un trait absolument caractéristique et même un peu stupéfiant justement des romans, aussi bien que d'un certain nombre de films tels qu'on les regarde aujourd'hui.
Alors, il y a la violence qui est très importante. Jusqu'où va-t-on dans l'ordre de la violence?
James Bond, d'abord, incarne un monde qui lui-même est violent. C'est un monde extrêmement manichéen que celui mis en place par Fleming et ensuite dans les films. Umberto Eco a écrit un article tout à fait intéressant, même s'il est assez ironique sur les structures narratives dans les romans de Fleming. Et il insiste sur l'idée que les romans sont structurés autour de grands couples d'opposés, d'opposition. Bond contre le méchant, le monde libre contre le monde communiste, par exemple. Et que ce manichéisme eh bien, produit dans la structure même des romans une structure qu'on pourrait appeler belliqueuse, conflictuelle, par nature, qui fait que le monde en lui-même est violent. Et James Bond, eh bien, est le personnage qui s'introduit à l'intérieur de cette structure violente, et il en est le dépositaire, puisqu'il a le permis de tuer, donc il est fait de violence, c'est un être de violence, et effectivement, il y a plusieurs notations dans un certain nombre de romans où on dit qu'il a un regard cruel, ou quelque chose de cruel dans la bouche, donc il porte avec lui une certaine forme de cruauté.
Attention. Umberto Eco dit d'ailleurs que James Bond joue et gagne en 8 coups, allusion au revolver.
Absolument, en tout cas une structure narrative aussi qui est construite autour de la figure du jeu. Mais un point important aussi pour Bond et sur la violence qu'il porte, c'est que tout de même dans les romans, si James Bond est une machine à tuer parfois, eh bien c'est quelqu'un qui a la nausée parfois des meurtres qu'il commet. Il y a des pages qui sont assez célèbres où encore du sang sur les mains, et James Bond le supporte difficilement. C'est plutôt un aspect des choses que le cinéma aura un peu édulcoré, puisque dans Dr. No, et ça a d'ailleurs été reproché au film au moment où il est sorti, James Bond n'hésite pas à tuer de sang-froid le Dr. Dent alors qu'il est désarmé, en l'attendant d'ailleurs en faisant une réussite. Donc le lien avec le jeu et la violence est immédiatement mis en place ici. Et ensuite, si la violence reste consubstantielle du cinéma de James Bond, elle a évolué parfois dans ses formes. Lorsqu'il s'agit, dans les périodes Moore, de faire en sorte que le film devienne un spectacle un peu plus grand public, la violence est toujours là, mais elle est édulcorée d'abord par les mots d'esprit de Bond, c'est-à-dire quand il tue un méchant, il fait un petit mot d'esprit qui met un peu la violence à distance.
On attendrit la violence par la gaieté ?
Peut-être pas par la gaieté, mais par une forme d'ironie, par une forme de distance. Et puis, on a une violence qu'on pourrait qualifier de cartoonesque parfois, en particulier avec le personnage de Requin, justement, dans Moonraker, où on voit que si effectivement on reste dans un monde violent, on essaye de la rendre un peu burlesque par certains aspects des choses, ce qui est une manière finalement de l'acclimater à un spectacle grand public. Cette dimension violente, elle revient véritablement avec Timothy Dalton et en particulier Permis de tuer, parce que dans ce film, il entend venger le personnage de Felix Leiter, qui est son homologue du côté de la CIA, et ce qui devient son véritable permis de tuer, c'est justement la vengeance.
Qui a été mangé par des requins.
Ça marque très profondément James Bond, et James Bond veut venger son ami, et d'ailleurs, eh bien, on lui retire son véritable permis de tuer, mais il se donne un nouveau permis de tuer, qui est justement la vengeance. Et puis, cette violence, tout dépend le dosage, puisque ça aussi, c'est un point important des films de James Bond. Terence Young disait que pour faire un bon film de James Bond, il faut respecter le dosage entre un certain nombre d'éléments.
Et c'est le premier réalisateur.
Et ce dosage-là, eh bien, il est aussi sur les aspects violents. Parfois, on va mettre le curseur sur une violence beaucoup plus marquée, beaucoup plus dure. C'est l'ouverture de Casino Royale, par exemple. Et puis, il y a des moments où la violence est plus édulcorée.
Il fallait bien choisir un ou deux extraits. En voici un, tiré de GoldenEye, qui a été réalisé par Martin Campbell et qui est sorti en 1995. C'est la période de Pierce Brosnan, avec Judi Dench dans le rôle de M.
Votre prédécesseur gardait du cognac dans le placard.
Je préfère le bourbon. Glace.
Oui.
Nous avons sorti les fichiers de qui peut avoir eu accès à Severnaya ou y avoir exercé une autorité. Le premier nom sur la liste est un de vos vieux amis, je crois.
Ourumov. Ils l'ont promu général.
Il se considère comme le futur homme de fer de Russie. C'est pour cela que nos politologues l'ont carrément biffé. Il n'a pas le profil d'un traître.
S'agit-il des mêmes politologues qui déniaient à GoldenEye toute existence? Qui disaient que l'hélicoptère ne présentait aucune menace et que ce n'était pas la peine de s'en préoccuper?
Vous ne m'aimez pas, Bond. Vous détestez mes méthodes. Vous me prenez pour un grouillot. Une petite guichetière, plus intéressée par ses bilans que par votre flair.
L'idée m'est venue à l'esprit.
Bon. Moi, je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide, dont le côté puéril et charmeur sans effet sur moi a beaucoup plu à cette jeune femme que j'ai chargée de vous évaluer.
Bien enregistré.
Ce n'est pas tout, 007. Si vous pensez même brièvement que je n'ai pas les couilles de faire mourir un agent, votre flair vous trompe du tout au tout. Je n'ai pas de scrupules s'il me faut vous envoyer à la mort. Mais je n'agis pas par caprice. Même quand je vois votre attitude cavalière envers la vie. Je veux que vous retrouviez GoldenEye. Trouvez qu'il a volé ce qu'il projette d'en faire et stoppez tout. Et s'il vous arrive de croiser Ourumov, coupable ou pas, je ne veux surtout pas que vous vous livriez à une vendetta. Ce n'est pas ce qui fera revenir Alec Trevelyan.
Vous n'êtes pour rien dans sa mort.
Mais vous non plus, d'ailleurs. Soit dit sans vous vexer. Bond, revenez vivant.
Revenez vivant. Ambivalence de la conversation, évolution depuis le premier M qui était un homme et qui avait un peu une figure paternelle, malgré tout pour James Bond, jusqu'à M qui est devenue une femme et qui évoque les rapports précisément de James Bond avec le sexe opposé.
On est en 1995, GoldenEye est un film qui apparaît 6 ans après le dernier James Bond qui était Permis de tuer, pour des raisons de production en particulier, mais le film a changé du coup, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau contexte géopolitique, le mur de Berlin est tombé, on y reviendra sans aucun doute, et il y a une nouveauté profonde dans ce film, c'est qu'effectivement le supérieur est de Bond, le chef des services secrets est une femme, interprétée par Judi Dench, à un moment d'ailleurs où à la production des James Bond, c'est une femme qui prend la tête, Barbara Broccoli. Il y a sans doute peut-être un lien entre les deux.
C'est la fille d'un des deux fondateurs.
C'est la fille d'Albert Broccoli, dit Cuby, qui était l'un des producteurs originels avec Harry Saltzman. Eh bien, le fait de faire arriver une femme est tout à fait intéressante puisque ça modifie les rapports que James Bond peut entretenir avec son supérieur hiérarchique. Comment James Bond se soumet à une autorité féminine, et vous voyez qu'elle ne manque pas de l'admonester, et en le traitant à la fois de relique de la guerre froide, mais aussi de dinosaure sexiste et misogyne, ce qui est une manière de reconnaître une des dimensions manifestes, évidemment, des romans comme des films de James Bond, mais c'est aussi une manière, finalement, de montrer que peut-être les choses ont changé et que à partir du moment où une femme apparaît à la tête des services secrets, le rapport de Bond aux femmes doit aussi lui-même évolué.
Donc c'est aussi un regard très sévère sur la vie privée de James Bond. À un autre moment, M dit que les orphelins font les meilleurs recrues. Et en fait, la vie privée de Bond, c'est une sorte de champ de ruines.
Effectivement, James Bond est orphelin. Et en tout cas, dans le fait que la femme avec qui il s'est marié a été assassinée de manière tout à fait tragique, fait que James Bond reste un solitaire. Il n'y a pas d'attache sentimentale véritable de James Bond. Les véritables attaches sentimentales qu'il peut avoir, même si le terme sentimental est peut-être pas le meilleur et le mieux adapté, mais c'est aussi effectivement à ceux à qui il reconnaît une véritable autorité. D'abord la reine d'Angleterre, ça c'est sûr et certain, et puis il est au service secret de Sa Majesté, et puis ceux qui incarnent finalement cette autorité, à savoir M, sous la figure masculine comme la figure féminine.
Les femmes évoluent dans James Bond depuis l'origine. Au début, c'est vraiment la femme objet, la femme dominée. C'est l'époque de Ursula Andress qui sort magnifiquement des eaux. Avec un bikini d'ailleurs dont j'observe qu'un bikini ivoire qu'il a été vendu en 2001 68 000 € chez Christie's. C'est significatif, non?
Ben c'est ainsi que le monde bondien a créé sa propre mythologie, et on voit que cette mythologie fait qu'un bikini comme celui-ci peut se vendre effectivement très cher.
Carole Bouquet en 81, ouais. Kim Basinger en 83. À mesure que les films avancent, néanmoins les femmes prennent plus de consistance et certaines sont assez efficacement combative.
Il y a une évolution des films de James Bond, une évolution qui est une évolution politique, culturelle, et bien évidemment, la position des femmes et leur rôle dans les films a évolué, et c'est tout à fait important et heureux.
Ça correspond à l'ère du temps? Successivement, je veux dire.
Est-ce que ça correspond exactement à l'ère du temps? C'est difficile à dire. En tout cas, on peut constater qu'il y a une évolution. Effectivement, si Ursula Andress est un personnage féminin tout à fait magnifique, mais elle se met sous la protection de Bond, on verra apparaître dans les années Brosnan du côté de femmes qui œuvrent du côté du bien. Parce que des Amazones, on en a du côté du mal. Par exemple, Pussy Galore dans Goldfinger, depuis donc presque l'origine des films et des romans.
Mais Pussy Galore, elle a de l'autorité. Ce n'est pas transparente.
Non, non, mais absolument. Et puis, elle fait quelques bonnes prises de judo à Bond, donc de telle manière qu'effectivement, c'est une combattante. Mais ces figures combattantes, on va les voir arriver dans le cinéma du côté des figures du bien, plutôt dans l'ère Pierce Brosnan, en particulier avec le personnage de Jinx dans Meurt un autre jour, interprété par Halle Berry. Et finalement, elle est beaucoup plus efficace presque dans l'action que le personnage de James Bond lui-même. Il est tout à fait intéressant de voir aussi que dans Casino Royale, le personnage féminin dont James Bond tombe amoureux, Vesper Lynn, c'est d'abord d'une certaine manière une cérébrale. Une cérébrale qui en remontre à James Bond. Et à travers ces trois figures que je viens d'évoquer, on voit toute l'évolution, évidemment, de la position des femmes, de la valeur des femmes et du regard que l'on porte sur les femmes à l'intérieur de cette saga.
Je voudrais que nous disions maintenant un mot, Fabien Bouly, des relations de James Bond avec le jeu de cartes, le poker, le chemin de fer. C'est très important. Casino Royale, c'est très important dans cette histoire que nous étudions ce matin, c'est-à-dire James Bond et son mythe.
Les première ligne qui ouvre le premier roman de James Bond se passe dans un casino, et toute l'intrigue va tourner autour d'un casino. Le deuxième point, c'est que comme Umberto Eco l'a montré, et comme on l'a déjà un peu évoqué, effectivement, tout est sous la forme d'une forme de défi dans les James Bond, et ça donne l'importance de la figure du jeu à l'intérieur des romans comme à l'intérieur des films. Et dans Casino Royale, c'est autour d'une table de poker, finalement, que James Bond arrive à combattre le chiffre, en tout cas à le ruiner. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui vient d'une petite aventure qui est arrivée à Fleming, donc il a peut-être un peu romancé, mais pendant la guerre, où il s'était dit, dans le cadre d'un casino où il se trouvait à Lisbonne, que s'il pouvait ruiner des agents nazis, ce serait un bon coup à leur faire.
Sauf qu'il avait tout perdu.
C'était exactement ça, c'est-à-dire lui a tout perdu, et donc du coup, ça dit le caractère un peu fantasmatique de James Bond et de l'univers mondien.
Une revanche.
Il a pris sa revanche, ce qui dit aussi quelque chose de la dimension du jeu, sur le plan fictionnel de cette aventure où lui a été complètement dépouillé.
Puis on se rappelle Goldfinger, où l'adversaire triche.
Effectivement, Goldfinger triche et James Bond, qui a un œil particulièrement avisé sur la question du jeu, eh bien, s'aperçoit très rapidement que Goldfinger triche. Et c'est comme ça aussi. Et d'ailleurs, il le bat aussi au golf à un moment donné. Et c'est un point qui touche l'orgueil aussi de Goldfinger. Et donc, on voit que cette dimension du jeu, c'est une dimension de compétition. C'est une manière de mettre sur le terrain, sur un terrain ludique, en fait, un affrontement qui est un affrontement finalement extrêmement violent entre les personnages.
Et qui peut s'élargir à la géopolitique, des théories des jeux, ce qui, par une transition habile, me conduit à évoquer l'évolution du paysage, l'arrière-plan, pendant ces 50 ans et davantage.
Absolument.
Où se déroule cette histoire. Écoutons donc ce reportage à l'occasion du 50e anniversaire de la sortie du film Dr. No. C'est le premier de la série. Nous l'évoquions tout à l'heure. 50 ans plus tard, en 2012, le personnage de Bond vient figurer avec éclat aux côtés de la reine d'Angleterre. Et nous allons parler des relations entre Bond et la Grande-Bretagne.
S'il fallait choisir un seul exemple pour illustrer le caractère so British de James Bond, ce serait sans doute celui-ci.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
La reine aux côtés de James Bond dans une séquence désormais culte de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Londres a choisi 007, qui d'autre pour escorter la souveraine devant des centaines de millions de téléspectateurs. Bond est une fierté nationale, une icône, une institution, un modèle pour les Britanniques, selon Luke Williams de la revue 007 Magazine, entièrement dédiée au personnage. Il est perçu comme un gentleman, élégant, il aime la grande cuisine, le bon vin, les bonnes choses, et peut-être qu'il représente pour les Britanniques ce qu'on voudrait être, la meilleure image que l'on peut avoir de nous-mêmes, sachant que nous ne sommes pas toujours à la hauteur.
Attardons-nous un instant, Fabien Bouly, sur ces relations entre James Bond et l'Empire britannique. Certains ont dit qu'il avait représenté une sorte de figure compensatoire face à la perte d'influence de l'Angleterre sur le plan géopolitique, et en affirmant notamment au moment de la guerre froide qu'on était capable de prendre ses distances par rapport aux États-Unis d'Amérique, avec même quelque chose comme un peu de condescendance.
Alors oui, en effet, c'est-à-dire ça, c'est un des aspects peut-être les plus intéressants de cette figure telle qu'elle a été créée par Fleming. Il écrit son roman en 1952, le premier roman, à une période où il y a une perte d'influence de l'Angleterre sur le plan géopolitique et géostratégique à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été le premier empire, ça a été une puissance de tout premier plan, et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on peut considérer que l'Angleterre a perdu un peu de son prestige politique face aux deux grands blocs, en tout cas les deux grandes puissances que sont les États-Unis et l'URSS.
C'est d'ailleurs le moment en 1951 où il y a eu une fameuse histoire d'espionnage.
Alors il y a deux choses qui expliquent
Burgess
effectivement voilà, le caractère un peu compensatoire de James Bond, le fait que Fleming va mettre en place une fiction qu'on pourrait dire presque curative pour l'esprit anglais, pour l'orgueil anglais. On est dans une période qui est celle de la décolonisation. D'accord. En 1947, le 15 août 1947, si je ne me trompe pas, l'Inde devient indépendante, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est l'Empire britannique qui commence finalement à se transformer. Et donc ça, c'est vraiment, il y a un aspect tout à fait important dans le fait que James Bond va compenser aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire dans les romans, on sent que les romans sont hantés par une espèce de dépression un peu post-coloniale, donc ça c'est un aspect des choses. Et puis il y a cette affaire effectivement en 1951 où deux agents des services secrets britanniques, Guy Burgess et MacLean, eh bien on découvre que ce sont étaient des agents doubles et ils font défection pour l'URSS. Et donc en fait, bien la figure de James Bond, qui est une figure d'espion et d'agent secret tout à fait intègre au service secret de Sa Majesté.
Et viril, alors que les espions sont posés comme homosexuels.
Oui, alors c'est une manière aussi pour Fleming sans doute de rappeler la virilité effectivement de son personnage. En tout cas, il crée, on peut le constater, une figure de personnage tout à fait viril, tout à fait intègre, qui est là pour restaurer finalement eh bien, le prestige à la fois de l'Angleterre et des services secrets.
Je ne fais que sauver l'honneur de la Grande-Bretagne, monsieur, propos tenu à M, première version de M.
Absolument. Et du coup, ce qu'on peut constater, c'est que dans les romans, aussi bien dans les romans et ensuite dans les films, eh bien, la position géopolitique qui est accordée à l'Angleterre est une position qui ne correspond plus exactement à la réalité. Si on prend l'ouverture d'un film comme On ne vit que deux fois, il y a un satellite qui est capturé par une sorte d'ovni au début du film, et puis on voit que les États-Unis accusent l'URSS de leur avoir capturé ce vaisseau spatial ou ce satellite, et donc du coup, en fait, il y a trois nations qui se réunissent, les États-Unis, l'URSS et au centre des débats, il y a l'Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui montre qu'elle est capable d'apaiser, qu'elle est au centre du jeu, qu'elle a les meilleurs services de renseignement. Et donc, elle continue à jouer sur le plan fictionnel un rôle géopolitique de premier plan.
Alors ça, c'est une sorte de compensation. En effet, à partir du moment où il y a eu la chute du mur et où le climat général de la guerre froide a disparu, que les choses changent, il y a toute la question de l'adaptation de James Bond à cet univers nouveau, inédit. Certains ont pensé qu'il n'y survivrait pas. Et pourtant, si.
En effet, c'était une question qui pouvait se poser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est savoureux que M le traite dans GoldenEye de relique de la guerre froide. C'est une manière de rappeler effectivement le fait que le personnage est associé à ce contexte de la guerre froide. S'il y a un espion auquel on pense dans le contexte de la guerre froide, c'est bien James Bond. Mais c'était aussi une manière de dire, si vous êtes une relique alors que je continue à vous donner des missions, on va vous adapter au monde contemporain.
Le monde change et James Bond demeure.
C'est-à-dire que les films vont prendre la mesure d'une nouvelle donne géopolitique. Alors parfois aussi en faisant en sorte que les derniers bastions, par exemple, du communisme, eh bien, deviennent des enjeux importants dans les films. Dans Meurt un autre jour, James Bond va en Corée du Nord, il est enfermé dans les geôles nord-coréennes pendant 18 mois, il est torturé. Ça montre bien que la dimension du communisme reste quelque chose d'important dans ce film-là. Il va aussi à Cuba, et à Cuba, sous l'aspect carte postale, il y a une clinique de chirurgie esthétique tout à fait terrifiante à l'intérieur de Cuba qui montre que le communisme reste un péril.
Ça, c'est une prolongation en quelque sorte artisanale de la guerre froide.
Exactement, c'est une très bonne formule. Voilà. Et par ailleurs, on adapte évidemment aussi James Bond aux nouveaux enjeux culturels et politiques. Par exemple, dans Quantum of Solace.
Quelle année ?
C'est en 2008, oui. Et Dominic Green, par exemple, est quelqu'un qui semble vouloir exploiter de nouvelles réserves d'eau. Donc ici, la problématique écologique de l'accès à l'eau devient une dimension absolument essentielle. Ça montre bien l'adaptation finalement de l'univers bondien aux évolutions géopolitiques, géostratégiques et, disons, plus globalement culturelles.
Après le 11 septembre, l'ennemi peut aussi changer.
Absolument. Alors ça, c'est un point qu'on a vu aussi apparaître dans Casino Royale. Casino Royale est intéressant au moins sur deux aspects. C'est que, évidemment, le 11 septembre, on le sait, ce sont des attentats qui mêlent la figure des avions et qui rentrent dans le World Trade Center. Or, on ne va pas trouver du tout cette figure dans le film, mais en revanche, il y a une action terroriste qui vise à faire exploser un avion. Donc on voit que la figure de l'avion et du terrorisme est recyclée à l'intérieur d'un film comme celui-ci. Et puis, l'organisation terroriste derrière le personnage du chiffre reste une nébuleuse de l'ombre, mal identifiée en tout cas dans ce film-là. Elle deviendra plus explicite dans les films suivants. Et donc dans Casino Royale, il est clair que le rapport à ce qui était la grande menace de l'époque, à savoir Al-Qaïda comme nébuleuse de l'ombre, fait directement écho. Et c'est une manière d'adapter les films finalement à leur champ, à la nouvelle donne géopolitique.
Permanence, renouvellement, histoire cyclique en somme. Revenons au début et vous nous direz s'il s'agit vraiment d'un cycle. Fabien Bouly, pour finir cet extrait du film Dr No, en anglais il s'appelle Dr No, en français James Bond contre Dr No, réalisé, nous le disions, par Terence Young en 1962 avec Sean Connery et Joseph Wiseman dans le rôle du méchant Dr No.
Vous admiriez mon aquarium. J'en ai moi-même dessiné les plans et j'ose dire que c'est réellement un chef-d'œuvre. Les glaces sont convexes et ont 25 cm d'épaisseur, d'où cet effet de grossissement.
Qui fait que les poissons se croient plus grands qu'ils ne sont, comme vous sur cette île, Docteur No.
Cela dépend, Monsieur Bond, de quel côté de la glace vous êtes. Nous allons dîner tout de suite. Nous avons si peu de temps et tant de choses à discuter.
Au fond, Docteur No, vous n'avez pas mal réussi.
Cela dépend comment vous l'interprétez. Je suis le fils non désiré d'un missionnaire allemand et d'une jeune chinoise de bonne famille. Je suis pourtant devenu trésorier des Tang, la plus puissante organisation de toute la Chine.
Et c'est ainsi que vous avez financé cette opération. C'est une bonne idée d'utiliser la force atomique en prenant toutes les précautions appropriées.
Mon travail m'a apporté une connaissance très complète de la radioactivité. Mais cela m'a coûté assez cher.
Il y a déjà bien d'autres dossiers ouverts à votre sujet, Docteur No. En particulier le nôtre, celui du CIA. Et celui de vos amis Tong que vous avez trahi si élégamment. Vous trouverez peut-être cette île bien petite et bien nue quand l'heure aura sonné.
Non, seulement bien destructible, Monsieur Bond.
Je suis revenu à dessein, Fabien Bouly, vers les débuts de cette histoire de James Bond, parce qu'il me paraît que dans cet extrait, on trouve déjà la plupart des composants de la suite. Je veux dire, l'idée de l'importance de l'argent, la science dévergondée, l'idée du vrai et du faux, du bluff constant, et puis cette idée d'insularité aussi, qui me paraît très fréquemment présente.
Mathieu Letourneux, qui est un collègue à Nanterre, a écrit une analyse tout à fait intéressante du fonctionnement des romans de Fleming, en montrant que c'est un tout petit monde, finalement, que le monde de James Bond, c'est-à-dire à savoir que, finalement, ça se réduit à un affrontement entre Bond et une grande figure de méchant. Et d'ailleurs, on voit dans l'extrait que Dr. No reconnaît à Bond la capacité à être le seul à vraiment comprendre quels sont ses desseins. Et donc effectivement, c'est intéressant de revenir à Dr. No. Pourquoi ? Parce que il y a un côté effectivement cyclique dans les films de James Bond, une sorte de ce que j'ai pu appeler une évolution conservatrice. À la fois, on évolue avec l'ère du temps, avec les changements culturels et géopolitiques, et en même temps, les invariants de la série restent éminemment présents et importants, sont conservé à travers cette évolution.
Le public trouve en somme ce qu'il attend, mais en même temps avec une évolution, c'est rassurant.
C'est à la fois rassurant et puis c'est une manière de faire du contemporain et de l'ancien. Ça caractérise aussi les mythes. Les mythes ont cette capacité à être recyclés dans de nouvelles figures pour les actualiser, pour les rendre toujours plus actuels, alors que finalement ils sont extrêmement anciens.
Je parlais pour commencer du Bureau des légendes et de son succès. Est-ce que certaines des composantes de James Bond, selon vous, se retrouvent précisément dans cette série désormais prestigieuse ?
Il y a beaucoup de différences finalement quand même entre les deux, puisque le Bureau des légendes se veut extrêmement réaliste dans son traitement du monde de la DGSE et du monde de l'espionnage. James Bond, on est beaucoup plus dans quelque chose de fantasmatique et fantastique. Le rapport est peut-être celui, par les romans, d'une forme de bureaucratie finalement de l'espionnage, qui n'est pas une dimension à minorer, parce qu'elle est importante dans les romans, et on voit que sans un travail de bureau, hein, le nom le dit lui-même, il n'y aurait pas d'espionnage possible. C'est ce que nous dit aussi le Bureau des légendes.
Le rêve et l'encrier.
En somme.
Merci d'être venu à ce micro, Fabien Bouly. Vous avez publié avec Françoise H. Bissette et Vincent Chenille, d'une part James Bond, figure mythique chez Autrement en 2008. Et puis, vous avez également organisé les actes d'un colloque, James Bond 2007. Anatomie d'un mythe populaire, c'était précisément en 2007, c'est paru chez Belin, avec une convergence d'éclairages très variés et très stimulants. Hommage aussi au livre de Luc Boltanski, Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête, enquête au pluriel, paru chez Gallimard en 2012, et à l'ouvrage d'Alain Deverpe, Espion, une anthropologie historique du secret d'État contemporain, dans la collection Bibliothèque des Histoires, chez Gallimard, 1994. Vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission en vous portant sur le site de France Culture. Samedi prochain, nous parlerons de Saint-Jean-Perse, c'est-à-dire aussi d'Alexis Léger, le diplomate, un grand poète, un diplomate important. Saint-Jean-Perse, immarcessible, et je crois, ne manquant pas d'actualité. Et je recevrai, pour cela, Henriette Levillain, biographe de Saint-Jean-Perse. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine au thème des droits de l'homme, une histoire des droits de l'homme. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Alice Seyed à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme chaque semaine, j'ai plaisir à remercier la documentation et la bibliothèque de Radio France. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.